Bonjour Benjamin Béchet, merci d'avoir accepté d'être avec nous à la Jolie Colo.
Bonjour, je suis ravi d'être là, merci de l'invitation.
Vous êtes un photographe reconnu. Vous travaillez avec les plus grands journaux et magazines français comme Le Monde et Géo. Elle est également pour la presse étrangère comme le New York Times, Vanity Fair. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au Vercors?
Écoute, moi je suis alpin, je suis savoyard et je connais pas mal de massifs alpins et le Vercors c'était un peu un angle mort, c'est un endroit que je connaissais pas. Ma mère me l'avait tout le temps dépeint comme un massif un peu triste, un peu pluvieux. Elle l'avait traversé à cheval, je crois, quand elle avait 30 ans et elle s'était pris une grosse drache en automne. Et j'entendais parler souvent du Diois, du Vercors. Je passais dans le Trièves, à Luz-la-Croix-Haute, mais toujours autour, je tournais un petit peu autour. Et je cherchais un nouveau territoire pour un nouveau projet. Et j'ai commencé à passer du temps plutôt du côté Trièves, où j'ai un copain qui a une petite cabane. Et j'ai commencé un petit peu à me balader sur le plateau en partant de cette cabane. C'était un endroit que je voulais découvrir. Et puis, il était question aussi avec ma famille qu'on s'installe dans le Diois. Alors, je commençais un petit peu à faire des repérages. Je me disais, ça pourrait être chouette de commencer à faire des photos sur ce territoire si jamais un jour on vient y vivre.
Depuis combien de temps pratiquez-vous la photographie et quels sont les photographes qui vous ont inspiré?
J'aurais dû bosser là-dessus. J'y pensais l'autre jour. Écoute, j'ai tout le temps fait de la photo. Je pense qu'au collège, j'avais un petit labo dans ma salle de bain. À partir du lycée, j'avais rejoint une petite association. Ça a tout le temps été naturel, quoi. Concernant les photographes qui m'ont inspiré, écoute, quand j'étais collégien et lycéen, j'étais très admiratif de grands reporters d'abord, de grands reporters de guerre ou de grands sujets dans le monde. Donc j'ai découvert à l'époque Sebastião Salgado, qui vient de mourir là, il y a quelques semaines. Et puis d'autres grands reporters comme par exemple Raymond Depardon, aujourd'hui, qui est une grande sommité française. Et avec le temps, et j'ai commencé à me faire une plus grande culture photo dans des festoches ou quoi. Et j'ai vraiment accroché avec la photographie américaine, avec des auteurs qui sont incroyables et qui ont une façon de photographier les gens vraiment folle. Donc je pense à Lee Friedlander, par exemple, ou Gary Winogrand, qui sont, vous jetterez un petit coup d'œil, des très grands photographes en noir et blanc. Et puis, comme nos goûts musicaux ou nos goûts littéraires, au fil de ma vie, il y a plein de photographes qui m'ont impressionné, inspiré et aidé à avancer.
Nous avons quelques questions au sujet de votre premier livre de photos, Le Clan. Pourquoi ce choix du noir et blanc pour représenter le Vercors?
Alors écoute, j'ai fait beaucoup de couleurs dans ma vie. Le noir et blanc, quelque chose que je porte en moi quand même. Quand on commence la photo, on commence en noir et blanc, forcément, parce qu'on a le petit labo et c'est plus simple, la couleur, ça coûte trop cher. Je savais que j'allais photographier pas mal le milieu naturel et j'avais envie de m'absoudre des couleurs pour plusieurs raisons, pour pas trop qu'on voie la saisonnalité, pour quitter le monde touristique et aller vers quelque chose de plus profond, plus mental. Le noir et blanc a cette faculté, si tu veux, de mentaliser la perception qu'on a du monde, je trouve. Donc là, c'était pour moi le bon support. Ensuite, c'était moins cher. Je peux le faire développer pas cher ou le développer moi-même. C'est facile à scanner et j'avais envie de me remettre noir et blanc.
Pourquoi avez-vous choisi de prendre en photo des animaux morts?
Ah, écoute, les animaux morts, c'est les animaux qu'on me fait rencontrer ou que je rencontre. Je ne suis pas un photographe naturaliste et le clan, ça parle plus des gens, des femmes, des enfants et des hommes finalement que des animaux. En tout cas, ça parle de tout le monde, de tous les êtres sur le plateau. Mais l'idée n'était pas de photographier, de faire de la photographie naturaliste. D'une part, parce qu'en moyen format, avec des objectifs tels que je les ai, je ne peux pas vraiment avoir de téléobjectifs ou des focales qui sont grossissantes comme ça pour faire ce genre de photos. On pourrait essayer, hein, j'en ai un, mais c'est un petit peu galère. En plus, c'est un appareil particulier, je t'expliquerai après. Donc, les animaux morts, c'est les animaux que le randonneur, le promeneur du dimanche, le reporter que je suis, rencontre quand on se balade avec un forestier ou avec un chasseur. Voilà.
Alors justement, comme vous en parlez, pourquoi votre livre s'appelle-t-il Le Clan?
Écoute, je cherchais une façon de parler de cette famille élargie, quoi, qui sont les habitants du plateau. Et ils sont drôles quand même. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, forcément, des liens familiaux, des liens extra-familiaux rapprochés, c'est-à-dire des cousins. Bon, c'est encore la famille, mais on commence à s'en éloigner un petit peu. Et ensuite, il y a des familles qui se côtoient depuis très longtemps. Quand tu commences à te faire des copains un peu sur le plateau, tu vois qu'ils te racontent tout le temps des anecdotes les uns sur les autres. Et puis après, tu parles à, par exemple, un jeune éleveur qui est présent dans le livre, là, qui me parle de son chien et qui m'en parle comme d'un copain. Et après, tu parles d'un naturaliste qui te parle des vautours, qui te parle des renards. Et pareil, qu'ils en parlent comme de gens qu'il a auprès de lui, quoi. Et donc, il est en train dans ma tête et dans le livre, en train d'exister une communauté d'êtres vivants, pas que des humains, qui se fréquentent, qui ont des liens ensemble de subordination, d'amitié. Et la forme clanique, finalement, c'était une façon de le représenter. C'est notre famille, en fait, le clan. C'est un groupe de personnes qui vivent ensemble.
Alors, vous avez déjà partiellement répondu à cette question. Quel type d'appareil photo utilisez-vous ?
Alors, j'ai plein de boîtiers, hein, comme un musicien, plein de guitares. Pour ce projet, donc c'est un Mamiya 6, j'aurais dû l'amener, je suis désolé, je ne l'ai pas pris. C'est un boîtier japonais des années 90, qui est tout petit. C'est ce qu'on appelle un appareil télémétrique, c'est-à-dire que la visée ne passe pas par l'objectif quand tu regardes. Ça a des avantages et des inconvénients. Pour un moyen format, c'est un boîtier qui est tout petit. Donc je peux trimballer ce boîtier avec des objectifs plus mon éclairage, puisque j'utilise un flash dans ce livre, de façon assez légère. Sinon, les moyens formats, ça peut rapidement peser 5-8 kilos avec tous les objectifs. Donc il s'agissait de rester léger.
Et du coup, faites-vous de la photo argentique ?
Donc ça, c'est un appareil argentique. Okay. Voilà, parce que dans les années 90, il y avait, t'imagines bien, très peu d'appareils numériques. Donc c'est un appareil qu'on appelle 120, c'est-à-dire que la pellicule fait 120 mm. Donc la pellicule, donc ça c'est du 6-6, ce format-là. Donc l'image fait 6 cm par 6. Avec cette même pellicule, tu peux faire du 6-7 ou du 6-9. Donc c'est beaucoup plus grand que la pellicule qu'utilisaient tes parents, le 24-36. Ça fait 4-5 fois la surface, ce qui permet d'avoir une qualité de tirage qui est super.
Ok. Dans votre livre, on voit des portraits d'habitants du Vercors. Donc, comme vous l'avez dit, un éleveur, un bûcheron, des chasseurs et même un artisan d'appeau. Comment choisissez-vous les personnes que vous photographiez ?
C'est un fil finalement qui se tire. J'ai d'abord passé du temps en marchant et en baladant et en faisant d'abord des rencontres au gré du vent. Et puis après, j'ai commencé à chercher des profils qui m'intéressaient. Et une fois que j'ai rencontré, par exemple, Didier, qui est une personne assez emblématique et qui connaît beaucoup de monde, ou une autre personne, par exemple, naturaliste, ils m'ont tous envoyé vers d'autres personnes. Et après, c'est simplement rencontrer des copains de copains, ou « Oh, est-ce que tu as entendu parler de cette personne-là » J'ai également sollicité le parc naturel régional du Vercors et les personnes qui s'occupent de la réserve naturelle des Hauts Plateaux, et avec eux, j'ai pu à la fois passer du temps avec aussi donc des gardes de la réserve et aussi m'ont conseillé des personnes à rencontrer.
Gardez-vous parfois contact avec elles ?
Oui, j'aurais montré le livre, je les invite quand on fait une expo, je passe les voir quand je passe pas loin, là tu vois, avant de rentrer à 10, je vais passer voir deux personnes. Oui, j'essaye de garder contact, oui.
Nous avons quelques questions sur votre parcours professionnel. Avez-vous fait une école de photographie ?
J'ai fait une petite formation de 8 mois. J'ai d'abord fait des études d'histoire, une licence, pour avoir une petite culture générale. Et après, j'ai fait une formation qui était très pratique, hein, qui n'était pas vraiment une grande école, mais dans laquelle j'ai rencontré plein de copains qui sont devenus d'abord des collègues, avec qui on a fait des petites agences photo, un collectif, et ensuite qui sont devenus des amis que j'ai gardés tout au long de ma carrière. Ça m'a permis quand même d'avoir un petit bagage technique, et un petit bagage aussi plus spécifiquement culturel quant à la photographie.
Vous êtes originaire de Rumilly en Savoie. Pourquoi avoir choisi d'habiter à la Drôme ?
Écoute, j'ai beaucoup bougé. J'ai habité à l'étranger, en Espagne, en Italie. J'ai beaucoup voyagé. Je suis rentré en France il y a 12 ans. Je pense que là, j'ai 47 ans. Donc, j'ai recommencé à vivre en France vers mes 35 ans, quelque chose comme ça. Je suis retourné à Marseille, qui est une ville que j'aimais beaucoup. Et puis après, j'ai rencontré ma femme. On a eu des enfants et on cherchait un nouveau lieu pour vivre une aventure ensemble. Et comme je te le disais, le Diwa, je l'avais toujours en tête. C'est quelque chose que je voulais voir. Donc j'ai commencé à y passer du temps. De façon concomitante, j'ai un copain qui s'y est installé, qui était photographe aussi. Donc on a pu commencer à voir un peu comment ça se passait. Et puis on a eu un gros coup de cœur sur le Diwa, sur le climat social qu'il y avait là-bas. Et on a décidé de partir y vivre.
En 2022, vous êtes lauréat de la grande commande photographique de la Bibliothèque nationale de France. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Dans le cadre du plan de relance post-Covid, le ministère de la Culture avait lancé un grand appel d'offres pour permettre à 200 photographes, c'est beaucoup 200 photographes, hein. C'était un très gros budget, à 200 photographes de travailler sur la France et de dresser un portrait de la France après l'épidémie du Covid. Dans la politique culturelle de la France, on a une tradition de la commande photographique qui est née dans les années 70 avec une mission qu'on appelle la DATAR. C'était une mission d'observation du paysage notamment. À l'époque, ils ont envoyé une vingtaine de photographes qui sont aujourd'hui tous très reconnus, dont Depardon, Plossu ou d'autres. Et l'idée, c'était de leur passer une commande publique pour montrer la France, en fait, la documenter, faire des photos dont on savait que plus tard, elles nous serviraient à la fois comme un repère historique et puis aussi comme un témoignage du temps de la France à cette époque-là. Et même comme un outil d'aménagement sur le temps présent. Donc c'est dans cette optique-là que le ministère de la Culture a décidé de relancer une grande commande. Ce que ça représentait pour moi déjà, c'était de s'inscrire là-dedans. C'est-à-dire que je faisais cette commande avec la conscience de s'inscrire dans une politique culturelle de l'image. Donc ça, c'est quand même c'est chouette. Et puis, c'était aussi une certaine exigence quant au travail que j'allais rendre. La Bibliothèque nationale de France, à l'issue de ce travail, a acquis 10 images par photographe. Ces images sont archivées, tirées et archivées. Donc les tirages sont archivés sur le site de Richelieu. Et c'est des images qui vont rester. Donc le travail que j'ai mené sur la forêt est vraiment un témoignage de l'état des forêts françaises à cette époque-là, en 2022.
Que trouvez-vous le plus fascinant sur le massif du Vercors ?
Écoute, c'est, je pense, un mélange qui donne toute sa magie au plateau. Les rencontres que j'ai faites sont assez fortes et je trouve les gens ouverts au dialogue. Ils m'ont tous accueilli avec bienveillance et curiosité. Ensuite, j'aime les contradictions de ce plateau aussi, qui en fait n'est pas qu'un plateau, c'est d'abord un ensemble de deux montagnes. Hein. Tu sais que jusque assez récemment, le Vercors était considéré plutôt comme deux massifs de montagnes, quoi. D'un côté quatre montagnes et puis l'autre le côté plus au sud, autour de la réserve. Et tous ces replis, ces gorges, c'est sans fin en fait. Et à un moment, j'avais pour ambition d'en faire le tour et de voir une grande partie du plateau avant de sortir le livre. Mais en fait, il m'en manque plein. Donc j'aime bien aussi le fait de pouvoir s'y perdre indéfiniment. La moyenne montagne, c'est un territoire que je connais bien, j'y ai grandi. Donc c'est aussi un territoire dans lequel je me sens à l'aise. 1000, 1500 mètres d'altitude, c'est quelque chose où je suis vraiment bien. C'est ma bonne place entre le ciel et la terre.
Le changement climatique a-t-il un impact sur votre vie et sur votre métier de photographe ?
Oui. Oui, j'ai inscrit quand même le clan dans cette optique-là, de rendre hommage à tous ceux qui vivent avec et pour le milieu naturel, pour à la fois montrer comment est-ce qu'on peut vraiment vivre en harmonie avec le milieu, tout en tirant profit, hein, c'est-à-dire en pouvant élever des bêtes, en pouvant chasser un peu de gibier, et en protégeant un grand nombre d'espèces qui sont protégées. Donc c'est une toute petite pierre à l'édifice, hein, je m'en rends bien compte, mais j'ai quand même inscrit ce projet là-dedans. Après, je réfléchis aussi à faire ma part de façon plus grande. Donc je réfléchis à peut-être avoir un deuxième métier pour plus tard. Je commence à m'intéresser à l'agriculture, à voir comment est-ce que peut-être dans ma deuxième partie de vie, tu vois, je pourrais faire plus encore. Mais je me sens impuissant et je trouve que je fais pas assez, comme nombreuses personnes autour de moi.
Si le Vercors était un son, que serait-il, enfin ?
Je t'invite à écouter les travaux de Fernand Desroussins, qui est présent dans ce livre. C'est un audio naturaliste qui est très célèbre, qui fait des bandes-son pour des films dans le cinéma français. Il réalise également des bandes-son pour des expos. Il parcourt le monde pour enregistrer le milieu naturel. Il est capable d'enregistrer aussi bien les insectes que les oiseaux, que toute la faune. Et il fait un travail de dingue et il enregistre notamment à certains moments de la journée ce qu'il appelle des chorus, c'est-à-dire qu'il va choisir un endroit qui lui plaît, par exemple une clairière, où il va voir que type de forêt, l'alternance du milieu, la lisière, tous ces éléments vont être favorables à, par exemple, tel type d'espèce d'oiseau. Et il va placer ses micros à, de telle sorte à pouvoir enregistrer tout le monde. Et donc, c'est ce que j'aime aussi, peut-être, c'est peut-être ce son-là. C'est peut-être le son des oiseaux sous la tente, un petit matin de printemps au mois de mai. Je pense que c'est un beau son du Vercors, par exemple.
Est-ce que vous pourriez nous présenter votre livre de photographie, Le Clan ?
Eh bien, écoute, oui. Avec plaisir. C'est un magnifique ouvrage que tu peux te procurer dans toutes les librairies. Non, alors sans blague, c'est un travail que j'ai mis 4 ans à faire, qui rassemble, je dirais, 80 photographies en noir et blanc, argentique, qui est édité chez André Frère Éditeur, qui est un éditeur photo reconnu. Il est aujourd'hui directeur de France Photo Book, qui est la... le syndicat des livres photos en France. Alors, un livre, si tu veux, ça se fait de plusieurs façons, un livre photo. Il y a d'abord ce qu'on appelle le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est la succession des photos, du début à la fin. Et quelle histoire tu racontes en passant, par exemple, d'un arbre mort au milieu du chemin à un tas de fumée qui fume, puis à Pierre qui nourrit ses veaux, puis à Didier qui coupe un arbre. Et donc ça, c'est la succession des photos. C'est comme au cinéma, c'est la succession des plans qui fait que tu vas commencer ta narration comme ça. Alors ça paraît bête, hein. On pourrait se dire qu'on pourrait mettre n'importe quelle photo les unes après les autres, mais quand tu commences à te poser la question de dans quel sens tu vas les mettre, c'est assez long. Et donc souvent, tu te fais aider. Tu commences par les mettre chez toi un petit peu, tu mets un petit truc et puis bon, au bout de 2 mois, il y en a partout. Ta copine t'engueule parce qu'elle en a marre que ça déborde. Donc après, tu vas voir quelqu'un qui est un peu spécialisé là-dedans et puis tu te poses. Donc tu commences vraiment à te mettre d'accord sur comment tu vas faire cette histoire. Et une fois que tu as cette succession de photos, après, il s'agit de faire la maquette. Et donc là, je l'ai fait faire par un studio graphique qui est basé à Die, qui s'appelle l'Atelier Musli. Donc c'est Mithil Ducomet et il est spécialisé dans les livres en fait. Il a une culture de livres de ouf quoi. Il t'emmène dans la librairie et tu dis ok alors ça c'est comme si ça regarde, ça c'est un livre classique, les images sont en majesté, il y a une grande marge blanche, c'est vraiment le livre photo classique. Après il te sort autre chose, regarde là, plus de marge, plein pot, ou alors marge asymétrique, là on est dans quelque chose où le graphisme a plus d'importance, tu regardes d'autres choses. Il sait en fait comment tu vas réagir par rapport à ce que tu regardes. Ça paraît bizarre peut-être, mais en fait, selon comment sont mises en page les photographies et le texte, tu vas vraiment pouvoir raconter des choses différentes. Et donc, Mithil a choisi notamment de faire une couverture sérigraphiée. C'est un tissu qui est jaune et dessus a été imprimée une photo avec la méthode de la sérigraphie. C'est une méthode en fait, qui utilise une trame sur laquelle est apposée de l'encre. Et l'encre passe par les trous, en fait. C'est comme un pochoir. C'est assez technique, notamment quand il y a du tissu, parce que le tissu boit et c'est pas facile d'avoir beaucoup de détails. Donc l'imprimeur n'était pas très sûr que ça marche, mais ça a marché. Et ça a très bien marché. Et c'est ce qui donne, je trouve, au livre son côté objet, son écrin en fait. C'est un livre qui a été imprimé en Italie, chez un imprimeur qui s'appelle EBS, qui est un des très grands imprimeurs en bichromie dans le monde. La bichromie, c'est l'utilisation de 2 encres en fait. Tu fais tout ton dégradé avec juste 2 encres. Voilà, c'est très technique. C'est un livre qui est imprimé en offset, de façon classique.
Avez-vous des regrets sur le livre à nous dire ou êtes-vous fier à 100%?
Non, j'aurais aimé le continuer. J'ai quelques regrets sur quelques photos dont j'aurais aimé qu'elles soient présentes. Mais je suis très heureux de l'objet final et je suis très heureux d'avoir eu la chance de rencontrer notamment Mithil hein, qui a vraiment donné une patine, qui lui a donné une existence vraiment chouette. Ce sont pas des projets faciles parce que ce sont des projets qui coûtent pas mal d'argent, il faut trouver des partenaires, c'est pas un projet avec lequel tu vas gagner de l'argent en fait, c'est simplement un projet que tu fais pour faire vivre, présenter ton travail et puis rendre hommage à tous ceux qui t'ont fait confiance. Donc le fait qu'il existe, c'est déjà pour moi une belle victoire.
Merci beaucoup pour votre moment avec nous.
Eh ben de rien, c'était super. Je serais ravi qu'on échange après encore un petit peu, de façon plus informelle. Merci.
Merci beaucoup.